Bonjour à chacun. J'ai eu l'énorme privilège de faire une retraite silencieuse aux Abeillères près de Saint-Jean-du-Gard avec des études sur 5 textes de l'Évangile de Marc, études par Daniel Bourguet, un ermite protestant, ancien prof à la faculté de Montpellier. Ces études sont conçues comme des introductions à la méditation. Nourri par ces études, je voudrais à mon tour m'arrêter sur un de ces textes ce matin, soit Marc 2, 1 à 12, où Jésus guérit le paralytique. Mais avant de lire le texte, je voudrais faire une courte introduction au premier écrit des évangiles, le plus court, celui de Marc, écrit depuis Rome entre l'an 64 et 70, temps de persécution sous l'empereur Néron, persécution qui a coûté la vie aux bouillants apôtres Pierre et Paul. Marc n'a pas connu personnellement Jésus, sinon par les yeux de la foi et la contemplation du cœur. Et il parle de Jésus comme de quelqu'un de si proche. Ceci peut nous encourager à faire de même. Son auteur, donc Marc, un contemplatif, en fait c'est Jean surnommé Marc, d'origine juive, s'adresse surtout à des latins qui ne comprennent pas l'araméen. Certains termes en araméen, il les traduit précisément pour eux. Marc est très proche de Pierre, avec qui il a cheminé, et il s'inspire largement de la théologie de Paul. Il a aussi cheminé un temps avec Paul. Selon Acte 15, 38 à 39, Jean, surnommé Marc, donc l'auteur de l'Évangile, avait abandonné Paul et Barnabas en Pamphylie lors de leur premier voyage missionnaire. Lorsque Paul veut repartir pour le second voyage missionnaire et que Barnabas veut reprendre Marc avec eux, Paul marque son vif désaccord. Par la grâce de Dieu et la vision prophétique de Barnabas sur Marc, deux équipes missionnaires se forment alors, l'une composée de Paul et Silas, qui part pour ce deuxième voyage missionnaire qui nous est décrit dans le livre des Actes, à partir du chapitre 15, et l'autre équipe avec Paul et Barnabas qui embarquent pour Chypre. Barnabas et Marc. Qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, excusez-moi, Barnabas et Marc qui embarquent pour Chypre. Barnabas se dit « Ah, je veux quand même prendre Marc avec moi ». Alors, on partira les deux. Paul exprimera plus tard, dans 2 Timothée 4, 11, sa reconnaissance pour Marc et son ministère. Soyons donc comme Paul, prêts à réviser positivement nos jugements sur certaines personnes, sur leur caractère, sur leur ministère. Les premiers chrétiens croyaient que Jésus reviendrait bientôt. Il n'y avait donc aucune urgence pour écrire et décrire la vie de Jésus puisqu'il allait bientôt revenir. Mais avec la disparition de témoins oculaires comme Pierre et d'autres, Marc perçoit l'urgence d'écrire son évangile. Il le fera avec beaucoup de respect et de discrétion pour ne pas ajouter à la réalité des faits ses impressions personnelles. C'est surtout de l'apôtre Pierre que Marc tient toutes ces informations pour rédiger son évangile. En bon juif, Marc n'utilisera que très parcimonieusement le nom de Dieu, bien qu'il en parle clairement. Il rassurera les premiers chrétiens sur Jésus, parfaitement Dieu, et sur Jésus, parfaitement homme. Ce qui peut nous étonner, c'est que Matthieu et Luc, disciples de Jésus et témoins oculaires des faits rapportés par Marc, s'appuieront largement sur les récits de Marc pour rédiger plus tard leurs évangiles respectifs. Quelle belle reconnaissance de l'autorité de ce merveilleux évangile de Marc. Venons-en maintenant au texte. Donc dans Marc 12, 1 à 12, Jésus guérit un paralytique. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé, porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où ils se tenaient et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire aux paralysés ? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il aux paralysés, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Je voudrais ce matin, donc nourri par ces études de Daniel Bourguet, faire quelques commentaires de ce texte qui devrait nous encourager à contempler l'œuvre du Père et du Fils. La focale principale de ce texte se dirige sur l'action conjointe de Dieu, Père et Fils. Ce texte vient aussi en toute discrétion rappeler la divinité de Jésus. Une phrase de ce texte peut nous surprendre au verset 5, « Voyant leur foi ». Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Voyant leur foi, qui peut voir la foi ? Jamais dans le Nouveau Testament, il n'est question de quelqu'un qui peut voir la foi. Ce terme n'est pas utilisé souvent. Qui peut voir la foi ? Qui peut voir dans les cœurs ? Dieu seul peut voir la foi dans les cœurs. Daniel Bourguet souligne que toute l'action décrite dans les quatre premiers versets qui parlent des amis, qui surmonte tous les obstacles pour amener le paralytique aux pieds de Jésus ne sont qu'une introduction et une description de cette parole « Jésus voyant leur foi ». Ces versets qui décrivent toute cette action sont essentiellement une aide pour nous, pour que nous comprenions qui est Jésus et ce qu'il voit, c'est-à-dire la foi de cet homme et de ses amis. La foi, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Jésus voit l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur de ses porteurs et dans le cœur du paralytique. Alors que d'autres textes qui parlent des guérisons opérées par Jésus, on est souvent surpris que Jésus demande aux malades qui viennent à lui « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Marc ne rapporte ici aucun dialogue entre Jésus et le paralytique. Jésus voit la foi de cet homme et sans même qu'il n'exprime une quelconque repentance ou une demande de pardon, Jésus lui dit « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Alors ne me faites pas dire qu'il ne faut pas exprimer notre repentance. Nous sommes appelés à le faire. Jésus a vu la foi dans le cœur de cet homme et il lui exprime la bonne nouvelle du pardon de Dieu qui lui est accordé. Autre terme surprenant dans la bouche de Jésus. Jésus dit « mon enfant ». Jésus ne s'adresse habituellement pas ainsi à des adultes inconnus. « Mon enfant », c'est l'expression d'un père à son fils. En disant « mon enfant » à cet homme, Jésus lui révèle l'amour de Dieu, son Père, pour lui. Et par extension, Jésus nous révèle l'amour de Dieu le Père pour chacun d'entre nous. À nous, il dit « mon enfant ». Dans la suite du récit, Marc ne nous rapporte pas non plus d'échanges entre Jésus et les spécialistes de la loi qui sont présents dans cette maison. Ils sont venus écouter les paroles que Jésus enseignait, ou ce que Jésus enseignait. Jésus lit, comme pour le paralytique, ce qui se passe dans le cœur de ces spécialistes de la loi. Je relis à partir du verset 6. Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème ! Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes et il leur dit « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ?» Jésus ne lit pas seulement dans le cœur du paralytique, mais aussi dans le cœur des spécialistes de la loi, qui se posent en fait la bonne question. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Par ces paroles, Marc souligne discrètement, mais très clairement, la divinité de Jésus et le pouvoir que Jésus, Dieu, seul possède celui de pardonner les péchés. Mais les spécialistes ne tirent pas les bonnes conclusions de leur réflexion. Ils n'en concluent pas que Jésus est Dieu. Ils concluent que cet homme blasphème. Enfermés dans leur logique, dans leur système, ils ne peuvent que conclure que cet homme blasphème. Mais Jésus ne veut pas les laisser dans cet état d'ignorance, dans cet égarement. Comme il s'est adressé aux paralytiques en ayant vu la foi dans son cœur, il s'adresse maintenant aux spécialistes de la loi en ayant vu combien ils sont offusqués dans leur cœur, que cet homme se prenne pour Dieu. Et Jésus leur dira en quelque sorte, ce que vous avez de la peine à croire est bien réel, je suis effectivement Dieu. Qu'est-ce que Jésus voit dans mon cœur? Qu'aucun autre homme ne peut voir. Y voit-il ma foi? Y voit-il ma repentance? Y voit-il mes fausses croyances qui m'empêchent peut-être d'avancer? Quoi qu'il puisse y voir, et Matthias nous l'a rappelé la semaine passée, Jésus n'est jamais pris de court pour s'adresser à nous. Il sait nous parler de tant de manières différentes. Et Jésus s'adresse alors donc aux spécialistes de la loi et aux paralytiques. Au verset 8, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire aux paralysés ? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton brancard et marche ? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il aux paralysés, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Jésus affirme alors ce qui, pour les spécialistes de la loi, enfermés dans leur système, est inconcevable. Jésus affirme qu'il est pleinement Dieu. Jésus s'attribue un titre divin que les spécialistes de la loi comprennent bien. Ce terme de « fils », le « fils de l'homme » qui est tiré de Daniel 7. Et le texte nous dit « Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. Et ce qu'il pardonne, il l'oublie. » Jérémie 31-34 nous dit, c'est Dieu qui parle, « Je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Dieu a cette faculté d'oublier ce qu'il a pardonné. Contrairement aux hommes, on peut pardonner, mais souvent, on oublie difficilement. Au paralysé, Jésus dit, « Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. » Pour décrire le miracle que Dieu opère, alors, pour ce paralytique, Marc utilise un terme qui est souvent mal traduit dans nos versions. Le verset 12 dit « Aussitôt il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. » Mais le verbe traduit « il se leva » devrait pourtant être traduit ainsi. « Il fut levé », sous-entendu par le Père. « Aussitôt il fut levé, prit son brancard et sortit devant tout le monde. » Ce n'est pas le paralytique, ce n'est pas l'action du paralytique de se lever, mais c'est bien Dieu le Père qui agit au nom de Jésus. Ils opèrent conjointement. Dieu le Père met sur pied cet homme grabataire. Plusieurs fois dans cet évangile, Marc souligne cette action conjointe du Père et du Fils. Tantôt, le Père agit discrètement et s'efface devant le Fils, et tantôt le Fils s'efface devant le Père, mais ils agissent toujours conjointement. Jésus donne ici encore deux ordres aux paralytiques, ordres qui peuvent nous étonner. Prends ton brancard, premièrement, et retourne chez toi. Pour ce qui est de prendre son brancard, prends ton brancard. Pourquoi cet ordre, alors que cet homme, relevé par Dieu, n'a plus besoin de son brancard? Notez l'inversion de la situation. que Dieu opère pour cet homme. Il entre dans la maison, porté par le brancard, et il en ressort en portant le brancard qui longtemps l'avait porté. Dieu a tout pouvoir pour inverser des situations que nous, humains, pouvons considérer comme irréversibles. Belle espérance, n'est-ce pas? Autre bonne raison pour cet homme d'emporter son brancard. C'est comme si Jésus lui disait, et à nous aussi, « Souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi du miracle que Dieu a opéré pour toi. Ton brancard sera pour toi un rappel de ce miracle et il sera un rappel pour toi afin de rendre grâce et gloire à Dieu en tout temps. » Deuxièmement, retourne chez toi. Lorsque nous aidons quelqu'un qui est en difficulté, le risque pour nous, humains, est de créer un lien de dépendance avec cette personne. Si elle nous est éternellement reconnaissante, nous serons éternellement flattés. C'est souvent inconscient. Jésus n'a pas besoin d'un tel lien et il veut nous rendre libres et responsables. L'amour de Jésus n'est pas possessif. C'est la raison pour laquelle il dit au paralytique « Retourne chez toi ». Et on le voit dans plusieurs miracles où Jésus renvoie ceux qui l'a guéri. Je résume quelques points pratiques. Il y en a 8. Vous n'arriverez certainement pas à retenir les 8. J'ai mis quelques petites feuilles derrière où ces points sont marqués. Mais je vous exhorte peut-être à retenir un ou deux de ces points, ceux qui vous touchent plus particulièrement. Premièrement, comme Paul à propos de Marc, suis-je prêt à réviser mon point de vue sur tel et tel? Deuxièmement, comme Marc, nous pouvons connaître Jésus par les yeux de la foi et la contemplation du cœur. Dieu cherche en tout temps à se révéler à nous. Troisièmement, en nous disant « mon enfant », Jésus nous révèle l'amour de Dieu le Père pour chacun d'entre nous. Quatrièmement, qu'est-ce que Jésus voit dans mon cœur qu'aucun autre homme ne peut voir? Y voit-il ma foi? Y voit-il ma repentance? Y voit-il mes fausses croyances qui m'empêchent peut-être d'avancer? Y voit-il ma louange? Etc., etc. Qui voit-il? Dieu, cinquièmement, Dieu a tout pouvoir pour inverser des situations que nous, humains, pouvons considérer comme irréversibles. Sixième point, souviens-toi d'où tu viens et souviens-toi des miracles que Dieu a opérés pour toi afin de rendre grâce et gloire à Dieu en tout temps. Septièmement, Jésus veut nous rendre libres, responsables. L'amour de Jésus n'est pas possessif. Et dernier point, le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Et ce qu'il pardonne, il l'oublie. Daniel Bourguet, qui accompagne des gens, nous disait, des fois j'ai des gens qui viennent et année après année, ils reviennent avec la même demande que Dieu pardonne ceci ou cela. Et il leur dit souvent, vous savez, Dieu oublie ce qu'il a pardonné. Vous n'avez pas besoin de lui demander X fois pardon pour la même chose. Dieu oublie. N'est-ce pas beau? Amen.